Amis des ondes, bonjour. Bonjour, ici l'émission mensuelle du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, sur Radio Dio 89.5. Je suis Alban Grasietin et accompagné aujourd'hui de
Jean-Paul Benitière.
Voilà, donc aujourd'hui nous allons consacrer notre émission mensuelle à un retour sur nos cinquièmes rencontres d'histoire ouvrière qui ont eu lieu le 19 janvier 2018 à la faculté de Saint-Étienne. Et donc nous allons dresser un petit compte-rendu, un petit bilan de cette journée d'études qui a eu lieu donc début janvier à Saint-Étienne. Alors, la thématique de cette journée d'études était d'étudier comment l'Église catholique et les protestants avaient tenté de reconquérir un monde ouvrier en partie déchristianisé après la libération. En effet, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, des organisations chrétiennes, surtout catholiques, s'étaient donné cette mission, tout en étant souvent étroitement surveillées par l'Église et, pour certaines d'entre elles, arrêtées dans le travail entrepris, par exemple l'expérience des prêtres ouvriers qui a pris fin en 1954 officiellement. D'autre part, des institutions catholiques accueillaient les ouvriers, leurs familles, les patronages par exemple. En même temps, nous avions à étudier comment le mouvement ouvrier a influencé l'Église et certains mouvements chrétiens. Il s'agissait aussi d'étudier les pratiques concrètes des différents acteurs sur des territoires donnés ou à partir de biographies pour saisir en fait les interactions entre la religion et le monde ou le mouvement ouvrier au sens large. En ce qui concerne l'islam, les sources étaient beaucoup moins abondantes pour nous. Nous en avons moins parlé dans la journée, mais la question se pose également. Quelles ont été les influences réciproques entre l'islam et le monde ouvrier, où la part des travailleurs musulmans n'a cessé d'augmenter depuis la Seconde Guerre mondiale en France? Et inversement, quelle était la place et le rôle du monde ouvrier sur l'islam de France ou sur l'islam en France? Donc nous allons pouvoir aujourd'hui faire un petit bilan de cette journée d'études, en commençant par rappeler quelques petits points de vue qui ont été exprimés suite à cette journée par des personnes présentes lors de cette journée. Et nous embrayerons ensuite par une présentation des différentes interventions qui ont lieu lors de cette journée. Donc je vais commencer en laissant la parole à Jean-Paul.
Alors voilà, ce qu'a dit Paul Chauma, ancien député du PCF de la Loire, en fin de journée. « Mon intérêt pour la vocation de l'expérience des prêtres ouvriers tient beaucoup au fait qu'ayant beaucoup milité dans les quartiers du Marais et du Soleil, j'ai pu apprécier l'impact laissé par Joe Goudbarg, Maurice Combes et Gaston Delors, donc trois prêtres ouvriers. J'ai également été intéressé par le thème « Mouvement ouvrier et religion » qui dépasse l'expérience des prêtres ouvriers. Formé dans un milieu familial communiste très actif et imprégné des luttes de la résistance, j'ai gardé un vif souvenir du poème d'Aragon, « La rose et le réséda », des hommages unissant ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, ainsi que la ferveur populaire accueillant le retour de l'abbé Ploton. Alors l'abbé Ploton, c'était un curé de Saint-Edmond, sauveteur des Juifs et résistant pendant la guerre, envoyé à Buchenwald et qui rentre de Buchenwald en 1945. Le thème « Mouvement ouvrier et religion » recouvre des enjeux politiques majeurs pour le rassemblement populaire, la cohésion sociale, la libération du monde du travail pour le passé, le présent et l'avenir. Nous connaissons les pratiques ancestrales de l'Église et aujourd'hui des religieux musulmans, pour maîtriser la société et ses évolutions. C'est ainsi qu'en dehors de leur personnalité propre, la mission ouvrière de Mgr Sicard ou la main tendue de Maurice Thorez reposait sur des objectifs éminemment politiques, l'un pour récupérer du terrain perdu, l'autre pour un plus grand rassemblement. Ce matin, il a été fait état d'une réflexion de Maurice Combes, disant qu'il lui arrivait souvent de n'être d'accord avec personne. Je vais à mon tour évoquer une citation, de Maurice, dont je garde un souvenir vivace. Nous devisions ensemble dans une manifestation contre la réforme des retraites de Juppé. C'est alors que Maurice m'a dit, avec mes convictions, je me suis consacré au service de l'Église, puis je me suis aperçu que c'était un parti. Toi, tu t'es consacré au Parti communiste et tu as découvert que c'était une Église. Pour conclure, je souhaite dire que j'ai toujours apprécié, au même titre que l'apport des prêtres ouvriers, l'activité de Jean Barbier à la Marandinière et à Moreno. Aussi, soyons d'accord pour toujours honorer les prêtres ouvriers, mais leur expérience date de la deuxième partie du XXe siècle. Regardons ensemble comment prolonger leur expérience au XXIe siècle dans un contexte social très différent, mais tout aussi violent.
Merci. Donc là, c'était un point de vue de Paul Chauma, donc quelqu'un membre du Parti communiste, où on peut se rendre compte que dès la libération, des interactions existent, notamment entre le mouvement ouvrier au sens large, représenté dans l'époque par le Parti communiste essentiellement, et le monde religieux. Donc c'était pas non plus des mouvements qui étaient imperméables les uns les autres, et des militants communistes qu'on considère volontiers comme anticléricaux à outrance pouvaient avoir des liens et du respect pour le personnel religieux. Un autre point de vue a été exprimé, c'est par Marie-Noëlle Royon, qui est membre de la direction nationale de l'Action ouvrière catholique, l'Action catholique ouvrière, pardon, donc responsable de cette action au niveau national, mais qui est présente dans la vallée du Gier. Elle nous signale qu'elle a trouvé beaucoup d'intérêt dans cette journée parce que pour elle, cette page d'histoire venait alimenter d'éventuelles réponses à des interrogations bien d'actualité. Je la cite, « Le monde ouvrier, où en est-il aujourd'hui? Comment le reconnaît-on? Qui en fait partie? Pourquoi ouvrier est devenu un gros mot ?» La spiritualité, elle continue, du monde ouvrier, comment se manifeste-t-elle aujourd'hui? Engagement différent, le syndicalisme n'est plus un engagement durable et par conviction. Que devient le sens du collectif, de l'organisation? Les mouvements d'action catholique se questionnent sur la pertinence d'aujourd'hui. Faut-il encore proposer la JOC, donc la jeunesse ouvrière chrétienne, la CO, l'action catholique ouvrière, aux différents salariés? Si oui, comment et à qui? Donc on voit que pour une responsable concrète aujourd'hui d'un mouvement d'action catholique ouvrière, notre journée d'études a permis de se positionner, de prendre en compte certains questionnements par rapport à ce que l'histoire pouvait nous apporter. Elle continue. Les différentes interventions ont mis en évidence combien les mouvements d'action catholique, principalement la JOC, mouvement d'éducation populaire, ont été formateurs, école de vie, école de l'engagement, école du respect de l'autre. De nombreux militants syndicalistes en sont issus et reconnaissent que ce sont ces mouvements qui leur ont donné l'audace et la force de la prise de parole, le sens du collectif, et vice-versa. L'engagement dans la défense des droits des travailleurs et des conditions de travail, se battre pour le respect et la dignité des ouvriers, leur a fait découvrir une foi incarnée, vivante. Donc, elle continue, « Suite à cette journée, je me pose la question de la transmission de ces valeurs, les valeurs chrétiennes, humaines, tout comme le sens du militantisme. Savons-nous donner le goût de l'engagement ?» Elle continue. « Je suis en ACO et en lien avec d'autres mouvements d'action catholique. Nos invitations à des temps de partage ont du succès parce que ce sont des temps où la parole est donnée. Tous les participants ont beaucoup à dire, n'hésitent pas à s'exprimer, entre autres leur souffrance au travail. Ces rencontres mettent en évidence la pertinence de la démarche du voir, juger, agir, qui était le slogan de la JOC. Et cette démarche du voir, juger, agir est encore d'actualité selon elle. Il faut simplement faire preuve de nombreux ajustements. Le monde du travail est en pleine mutation, les lieux de vie sont différents, des diverses situations familiales également sont à prendre en compte pour un aller vers adapté à chacun. Les travailleurs sont aussi des sans-travail et des précaires. Les ouvriers ne sont plus seulement dans des ateliers et sont qualifiés de techniciens de surface, d'hôtesses de caisse, d'agents de maintenance, agents de service intérieur, etc. Aujourd'hui encore, nous avons pensé l'articulation entre le religieux et le monde ouvrier, comme parlait Maurice Bedouin, en incluant les transformations et le contemporain du travail. » Donc là, on a fait une longue citation de Marie-Noëlle Royon, mais pour expliquer qu'une journée d'études comme la nôtre permet de mettre en perspective pour des militants d'aujourd'hui leur activité, leur engagement. Et dans ce sens, notre activité du CREMO, ça a été tout à fait concluante parce qu'elle va permettre, notamment des responsables militants encore aujourd'hui, de se poser des questions et de se positionner par rapport à ces problématiques-là.
Et en même temps, l'historien ne peut pas leur apporter toutes les réponses
Exactement.
Qu'ils attendent.
Elle est lucide parce qu'elle montre qu'aujourd'hui, il faut penser le monde ouvrier à notre époque et qu'il y a des choses qui ne sont plus.
Alors moi, je vais exprimer un point de vue sur cette très court là maintenant, sur cette journée. Je vais dire que moi, j'étais d'abord très content du nombre de personnes et en particulier des personnes qu'on n'avait pas vues les autres années qui s'étaient déplacées pour assister à cette journée. Oui. Alors, on reviendra sur le bilan tout à l'heure.
Mais c'est vrai que la salle était quasiment pleine,
oui.
Et du matin au soir, donc ce qui est plutôt rare. Donc c'est encourageant, et il y avait pas mal de générations de représentés. Concernant mon point de vue à moi, j'ai pu apprendre grâce aux différentes contributions un certain nombre de choses sur des aspects du bassin stéphanois durant la période. Donc quand on connaît un petit peu l'histoire et l'historiographie autour du bassin stéphanois, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites jusqu'aux années 1940 concernant les relations entre monde ouvrier, religion ou religion et monde ouvrier. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup moins d'informations sur les années post-Seconde Guerre mondiale. Et finalement, cette journée d'études a permis notamment d'ouvrir des perspectives de recherche sur ces thématiques-là et durant cette période qui est beaucoup moins visibilisé. On parle surtout des questions politiques, des débats politiques, etc. Et c'est vrai que la place de l'Église était un petit peu effacée durant cette période, d'après les rares travaux qui existaient. Et on a pu voir grâce à cette journée d'études notamment, que finalement il y avait beaucoup de choses à dire sur les relations entre monde ouvrier et religion, ou entre religion et monde ouvrier.
Ok, alors maintenant je vais exprimer le point de vue de Maurice Bedouin. Maurice Bedouin, il dit qu'il a eu le plaisir de rencontrer de nouveaux intervenants, spécialistes des questions abordées en provenance d'horizons divers. Et bon, il reprend ce que je disais, c'est-à-dire le plaisir de voir parmi le public des personnes qu'on n'avait pas touchées jusqu'à maintenant. Et puis, Maurice Bedouin, il dit de ne pas oublier de dire aujourd'hui que le sujet abordé nous a conduit à avoir recours à des fonds d'archives privées qui vont être bientôt versés aux archives départementales de la Loire et se joindre aux fonds déjà versés sur l'ACO et la JOC et qui ne sont pas encore classés. Donc, nous avons pu y avoir accès par dérogation grâce à l'amabilité du directeur des ADL et de Nadine Sora, que nous remercions.
Alors, maintenant, je pense que je vais présenter un petit peu la journée dans son contenu. Et je vais commencer par une présentation de l'introduction qui a été faite par Michel Zancarini-Fournel. Donc Michel Zancarini-Fournel, historien émérite de l'Université Lyon 1, spécialiste de l'histoire sociale, de l'histoire du genre en France, stéphanoise en plus, et qui a bien accepté de présenter cette journée et qui a d'emblée fait remarquer, et très justement, la dissymétrie, je la cite, qui existe entre les publications sur les chrétiens et celles sur les musulmans à propos du monde ouvrier. En fait, il existe très très peu d'études sur les liens entre monde ouvrier et monde musulman, alors que durant la même période, la classe ouvrière française connaît des mutations profondes, et parmi lesquelles notamment une présence de plus en plus massive d'ouvriers qui viennent des pays musulmans et qui donc importent en même temps leur religion au sein du monde ouvrier. Et c'est vrai qu'il existe très très peu d'études sur les relations entre monde ouvrier et islam. Et notre journée d'études a malheureusement pu éclairer certains aspects, mais on n'a pas pu couvrir tout ce champ qui reste encore à construire. Alors selon elle, le point de vue de la journée, comme nous l'avons signalé plus haut, devrait être moins celui des églises et de leur volonté d'encadrer le corps et les esprits, ou celui des organisations syndicales ou religieuses, que celui des pratiques et des valeurs portées par des individus. Personnellement, je pense qu'on a réussi ce pari. C'est vrai qu'on a parlé des organisations, qu'on a parlé un petit peu de l'église, mais on a surtout pu voir des individus, hommes et femmes, en action, concrètement, en pratique, dans leur territoire, dans leur époque donnée, et c'est vrai que ça change un petit peu de tous les travaux qu'on peut lire qui sont plutôt d'aspect théorique et qui abordent les grands débats et qui nous présentent très très peu en fait concrètement comment ça se passait sur le terrain. Donc à ce niveau, la journée d'études, je pense qu'elle a été très constructive puisqu'on a pu nous rendre compte concrètement comment ça se passait sur le terrain. Puis Michel Zancarini-Fournel a proposé à notre demande, donc à la demande du Grémos, un état des lieux de la recherche historique sur ces thématiques, donc la thématique du monde ouvrier et des religions. Et elle a bien noté, elle aussi, que la place des prêtres ouvriers, de la JOC, de l'ACO, de la Mission de France, est encore importante, sinon dominante, dans les travaux des historiens ou des sociologues aujourd'hui. C'est surtout des études, en fait, qui sont par le haut, dont il est question, à travers les hiérarchies militantes, syndicales, laïques ou non, les débats théoriques, des trajectoires individuelles ou des enquêtes sur des thématiques plus larges. Cette bibliographie sur le sujet permet, en outre, de repérer les différents types d'initiatives chrétiennes en milieu d'ouvriers, où l'on retrouve la question des organisations, donc le syndicalisme chrétien, l'action catholique. Je rappelle que l'action catholique regroupe en fait différentes structures, aussi bien la CO que la JOC, mais aussi d'autres structures qui sont dans d'autres milieux. Et aussi la question des missionnaires au travail. Donc l'historiographie actuelle reste quand même largement dominée par les études globales, mais notre journée d'études avait voulu un petit peu déplacer la focale d'analyse et essayer de voir sur le terrain, dans les pratiques, comment ça se passait. Pour finir, Michel Zancarini-Fournel rappelle, en s'inspirant des travaux de Xavier Vignat, la centralité ouvrière aussi bien dans les champs politiques et intellectuels que dans le champ social, du travail et du salariat durant ce second XXe siècle, ainsi que les transformations qui parcourent la classe ouvrière pendant cette même période. Donc cette mise au point et cette introduction a permis un petit peu de jeter les bases qui ont lancé les différentes discussions, notamment la première, celle de Michel Roux.
Alors voilà, Michel Roux... L'intervention de Michel Roux a porté sur le parcours d'une femme, Colette Crépin-Leblond, venue s'établir dans notre région, en particulier à Saint-Étienne et à Lyon, à partir de 1952. D'origine bourgeoise, elle est venue vivre la vie ouvrière, comme les prêtres ouvriers, plus connus, pour tenter de rapprocher la classe ouvrière déchristianisée du christianisme et de l'Église. Dans cette nouvelle vie, elle est devenue déléguée CGT. Et Il me semble que ce témoignage était très intéressant parce que on connaît mal, pour ma part, je connaissais mal ce phénomène. J'avais entendu parler des prêtres ouvriers, bien évidemment. Mais en ce qui concerne la mission ouvrière féminine, on voit par exemple Colette Crépin-Leblond rechigner à faire des enquêtes, comme le lui propose le groupe Économie et Humanisme, un groupe de chrétiens de gauche qui s'intéressait à l'économie. Donc groupe de Saint-Étienne, mais elle était décidée à vivre une vie d'ouvrière au plus près des ouvriers. Et alors, ceci me renvoie à ce qui s'est passé dans une génération plus récente, je vais dire la génération qui avait autour de 20 ans dans les années 68, et il y a eu un phénomène qu'on a appelé à l'époque l'établissement, et ce phénomène, donc dans la période 1967-1975, on a vu des étudiants, souvent d'origine bourgeoise ou petite bourgeoise, qui se réclamaient du maoïsme, aller travailler comme ouvrier dans des entreprises et vivre une vie d'ouvrier pour rallier les ouvriers à la classe révolutionnaire, à la cause révolutionnaire. Bien entendu, les buts et les idéologies n'étaient pas les mêmes, mais il y a une ressemblance dans la démarche de ces jeunes gens. Alors, on est bien, justement, par rapport à ce phénomène-là d'établissement de la classe ouvrière dans cette période de la centralité ouvrière. Et il y a une des différences qu'on peut noter, en plus de l'idéologie, c'est que Colette Crépin-Leblond, elle devient déléguée CGT. Les militants maoïstes établis en usine, il n'était pas question pour eux d'être délégués CGT, et de toute façon, la CGT ne leur aurait pas permis. Et bien maintenant, on va passer à l'intervention d'Alban.
Oui, alors moi, j'ai fait une petite intervention à partir de sources qui m'ont été prêtées par le père Giron de Roche-la-Molière concernant l'activité de groupe d'ouvriers membres de l'Action catholique ouvrière dans les années 70 dans le bassin stéphanois. Et ces archives m'ont permis de découvrir des aspects qui n'étaient pas du tout visibles dans les autres archives que j'ai pu consulter sur la même période, où on voyait concrètement comment des ouvriers catholiques militants prenaient en charge les questions des conflits et des grèves, comment ils s'inséraient à l'intérieur de ces conflits, de ces grèves, en tant que chrétiens. Et c'est vrai qu'il y avait très très peu de travaux sur ces questions-là, la bibliographie très très mince, ou alors elle est confidentielle, et finalement, comme on le disait en introduction, à part les gros travaux généraux sur l'idéologie les débats, on avait peu de choses sur concrètement sur le terrain, comment ça se passe. Donc moi, j'ai voulu réfléchir un petit peu là-dessus, et j'ai pu analyser la trajectoire, le parcours, les prises de position de certains groupes d'ouvriers chrétiens, membres de l'Action catholique ouvrière. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, là aussi, il n'y avait pas uniformité dans cette organisation. Les groupes de l'ACO de la Vallée du Gier n'avaient pas du tout le même type d'activité que un ou deux groupes qu'on pouvait retrouver, par exemple, à la Telodière Sorbier. Et là, on retrouvait encore la place des individus qui composaient ces groupes. Sur la Telodière Sorbier, on a notamment le rôle principal d'un militant CGT, membre de la CO, qui est secrétaire de l'Union locale CGT, donc Michel Bouteille, et qui va impulser une certaine pratique, une certaine manière de faire au sein de la CO sur la Telodière Sorbier. On n'a pas du tout le même phénomène sur la Vallée du Gier. Et là, on peut retrouver encore la question et la place des individus qui composent ce type de groupe. Et ça permet en même temps de déconstruire un petit peu l'image monolithique qu'on a de ces organisations. Hein. Et ça, c'est valable pour n'importe quel type d'organisation. Hein. Quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que les simples appareils politiques présentés, etc. Donc, moi, j'ai pu faire un petit travail là-dessus qui a permis d'éclairer les limites de l'action des ouvriers durant ces conflits, des ouvriers chrétiens. Et en fait, l'Action catholique n'avait pas pour vocation d'être une organisation syndicale. Son but, c'était simplement de pouvoir discuter après coup ou durant des conflits avec des ouvriers chrétiens et de se poser des questions sur le sens de leur engagement, etc. Mais le but de l'ACO n'a jamais été, malgré le titre et le nom de cette organisation, Action catholique ouvrière, le but n'a jamais été de remplacer des organisations syndicales pour la simple et bonne raison que la majorité des membres de l'ACO étaient aussi membres de syndicats. CGT ou CFDT, peu importe, mais ils étaient tous engagés par ailleurs. Donc quoi qu'il en soit, ils agissaient en tant que militants déjà. Donc l'ACO avait un rôle bien à part. Donc je ne vais pas revenir sur ma contribution qui sera éditée plus tard. Et on va pouvoir maintenant aborder un petit peu le point de Maurice Bedouin.
Alors, Maurice Bedouin, son intervention a porté sur ce qu'on appelle la mission ouvrière, l'articulation du religieux et du politique durant l'année 1963. Alors, la mission ouvrière est née à Saint-Étienne en 1957 et elle réunit des membres des équipes ACO, on va pas retraduire les termes, Action catholique ouvrière, JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, JOCF, Jeunesse ouvrière chrétienne féminine, les prêtres ouvriers et les religieuses au travail. Leurs représentants ont ainsi pris l'habitude de se rassembler en un comité diocésain qui compte environ 25 personnes en 1963 et qui travaille avec l'évêque auxiliaire Marius Mazier. Alors Maurice a choisi l'année 63 pour parler de cette mission parce que 1963 est une année qui réunit trois événements importants. La grande grève des mineurs. D'autre part, l'année 1963 est l'année qui précède le premier grand licenciement qui concernera une entreprise de Saint-Étienne, la SFAC, et que, d'autre part, 1963 se situe dans la période 1961-1964, pendant laquelle la CFTC poursuit son processus d'évolution qui l'amènera à se transformer en un syndicat laïque et à une la CFDT et à une CFTC maintenue. Alors, ce qu'on peut tirer de cette intervention de Maurice, c'est que ces organisations catholiques ont participé très activement, mais en lien avec les organisations ouvrières et en lien avec le Parti communiste, au soutien des mineurs en grève. Symboliquement, un événement important se passe dans l'église Saint-Edmond lors de la Sainte-Barbe 1963. Le curé choisit de ne pas réserver, comme c'était la tradition, les premiers rangs de l'église aux ingénieurs. Et les ingénieurs arrivaient après, donc leur place était prise. En ce qui concerne la répartition des membres de la JOC dans les différents syndicats, Maurice nous révèle que les militants de la JOC se répartissaient équitablement entre CGT et CFTC. Et d'autre part, alors, sur ce point-là, on va dire que deux courants idéologiques proches, c'est-à-dire la JOC et le courant reconstruction à l'intérieur de la CFTC, n'étaient pas sur les mêmes bases, parce que le courant reconstruction militait, lui, pour que les gens restent à la CFTC et que la CFTC se transforme en un syndicat laïque. Et partir à la CGT, c'était des militants en moins pour eux. La deuxième chose que nous a dit Maurice Bedouin, et qui est une chose nouvelle pour moi, c'est qu'une lettre de la direction nationale de l'ACO était parvenue aux membres de la mission ouvrière pour les inviter à réfléchir sur la perte que constituerait l'éventuelle disparition de la CFTC. Et pour Maurice, il dit que cette lettre émanerait en fait des évêques. Et c'est un point tout à fait intéressant, parce que dans la tradition historiographique de la naissance de la CFDT, en particulier chez le grand historien de la CFTT, Franck Georgi, lui, il n'a repéré aucune intervention des évêques dans ce processus.
Oui, exactement. Et toi, Jean-Paul, donc, excusez-moi. Donc, on voulait intervenir aussi. Jean-Paul, tu vas peut-être revenir rapidement sur ton intervention aussi.
Voilà. Eh bien, moi, je voulais intervenir sur l'évolution politique et religieuse des militants chrétiens de la CFTC, de la CFDT et de la CGT et donner une illustration de cette évolution à travers les témoignages de trois de ces militants. Michel Bouteille, dont Alban vient de nous parler, passé par la JOC, l'ACO, la CFDT et la CGT. André Momin, passé par la JOC et la CO, et la CFDT et la FSU, Fédération syndicale unitaire de l'enseignement. Et puis Roger Millier, prêtre relevé de ses fonctions pour s'être marié, est devenu ouvrier et militant de la CFDT. Alors, dans mon intervention, je suis revenu à la création de la CFTC pour souligner le paradoxe qui s'est passé dans ce XXe siècle. Cette CFTC, elle avait été créée par l'Église catholique pour lutter contre la CGT. Et j'ai présenté l'exemple de militants qui étaient tout à fait dans ce rôle-là. Mais dès 1925, des militants de la Loire, dont Jean Pralon, écrivent et disent que le fondement de leur action, ce n'est pas la lutte contre la CGT, mais la défense des revendications des travailleurs. Un autre militant historique de la CFTC de la Loire, André Garnier, se situe dans cette tradition-là et va devenir un militant de la laïcisation de la CFTC et également militant du PSU ensuite. Et quant à la nouvelle CFDT, héritière de l'ancienne CFTC, elle va prendre un certain nombre de positions que je ne vais pas développer ici, mais qui sont contraires à celles de l'Église. Alors, une des questions que je me posais, c'est comment les militants qui étaient dans ces organisations, qui prenaient des positions opposées à celles de l'Église, comment ils évoluaient ? Eh bien, la réponse donnée par certains auteurs est que ces militants vont se détacher de l'Église-institution et pour certains d'entre eux, de la pratique religieuse. Alors, Michel Bouteille, André Momin et Roger Millet ont fait des interventions qui sont très intéressantes, mais je ne vais pas les reprendre ici, ça serait trop long. Mais ils ont montré à travers comment ils s'étaient effectivement détachés de l'Église-institution et comment aussi leur foi avait évolué.
Très bien. Donc par rapport au détachement de l'Église-institution, on pourrait écouter maintenant une chanson de Colette Magny intitulée « Camarade curé » qui fait référence à la participation de certains curés basques à la lutte contre le régime franquiste et contre l'Église espagnole, qui dans sa majorité a soutenu le franquisme. Donc on vous laisse écouter les paroles de cette chanson très engagée « Camarade curé ».
Camarade curé, l'évêque t'interdit d'exercer ton ministère. À la rigueur, tu peux dire la messe, mais surtout, surtout pas prêcher, car tes sermons, les fidèles, ça risque de les dévoyer. Camarade curé, tes prêches, le peuple les aimait, car tout ce que tu disais, ça les concernait. Dans leur cœur, dans leur vie, dans leur façon de penser. Camarade curé, la sanction qui t'a frappé, c'est par le peuple qu'elle est assumée, jugée. Plus personne à la messe pour le nouveau-né curé nommé. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. L'Église est coupable de l'oppression qui s'exerce sur les travailleurs. Liée au pouvoir fasciste, militariste et capitaliste, elle jouit de privilèges dont le peuple est privé. Nous la voulons pauvre, du côté des pauvres et des opprimés, libre sur le plan du culte, dynamique, à l'avant-garde de la promotion humaine, qu'elle s'incarne dans l'histoire, dans la marche et dans l'effort des travailleurs du Pays basque. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. On me sépare du monde, menottes aux mains, le fouet encercle mon corps, comme les frênes sont tristes, le brouillard leur cache les étoiles. Oiseaux en cage, presque sans force, la tragédie dans l'âme, on veut nous faire penser par la force sous la menace des fusils. À la trompeuse lumière de la lune, le basque chemine, désorienté, mais en chantant sortira le soleil de la vérité. Non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Non, non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là.
Alors, pour nos jeunes auditeurs, Colette Magny était une chanteuse des années 60, ce qu'on appelle maintenant les années 68, qui a chanté de nombreuses chansons engagées. Ici, elle chante avec un cœur basque. Et on va revenir à Saint-Étienne, et plus particulièrement au quartier de Solor, avec une intervention de François Maguin, qui raconte comment des militants catholiques sont intervenus dans un quartier ouvrier à forte implantation communiste et déchristianisé, celui de Solor, à partir de 1938. Et alors, ce qui est... Là encore, on ne peut pas résumer cette longue intervention très intéressante, mais il montre la rivalité entre les deux groupes de militants, les militants communistes et les militants catholiques. Et je pense que son grand intérêt est de montrer comment ces deux groupes de militants ont pu passer d'une opposition irréversible à des formes de discussion et d'animation, mais aussi de dispute, bien entendu, mais à des formes de discussion et d'animation, à la fois autonome et collective, d'animation du quartier et de réponse aux besoins des habitants.
C'est là qu'on retrouve encore ce qu'on disait en introduction à propos des liens et des relations et des rôles des individus qui, là, loin de toutes les institutions dont on peut parler, sur le terrain, sont obligés de communiquer, de créer des moments collectifs aussi. Et donc, on voit bien que quand on étudie les pratiques concrètes, quotidiennes, eh ben, on a un regard qui est un peu différent que ce qu'on peut retenir quand on regarde les grands débats et les grandes orientations des organisations. Julien Michy, après, je crois bien, nous a aussi présenté quelque chose.
Ah, c'est moi, pardon. Excusez-moi. Donc, dans cette journée, nous lui avions demandé de parler de militants chrétiens. Lui qui s'intéresse en fait à l'engagement, et plutôt à l'engagement dans la CGT, on lui avait demandé spécialement de parler de militants chrétiens, et il avait choisi de nous présenter, sur la base d'une enquête, comment des militants chrétiens avaient pu devenir des militants de la CGT. Donc il nous a donné trois exemples. Les deux premiers sont d'origine rurale. Le premier, né en 1924, resté à la CFTC, avait découvert des valeurs ouvrières qu'il ne connaissait pas, tout en restant dans un engagement très modéré, déconnecté de la lutte de classe. Au deuxième, né en 1956, il avait fallu trois lieux de travail différents et l'amitié d'un cégétiste catholique pour faire le pas de l'adhésion à la CGT. Quant au troisième, né en 1965, mais dans une famille de cheminots peu engagés, il était devenu secrétaire à l'organisation du syndicat CGT que Julien Michy avait suivi dans son enquête. En conclusion, et en faisant référence à Michel Bouteille, Julien Michy a donné d'autres exemples de militants chrétiens qui sont devenus militants de la CGT.
Où l'on constatait encore une fois les parcours individuels et leur importance et qui sortent un petit peu des sentiers battus avec une ligne directrice toute tracée. Et c'est là que c'est toujours intéressant de regarder dans le détail les pratiques et le rôle des individus concrètement. Donc avant de passer maintenant à l'islam, j'aimerais bien que je vais passer à l'islam. Donc grâce à plusieurs interventions, on a pu quand même faire un petit peu le point sur cette question du monde ouvrier et de l'islam. Donc en premier lieu avec Alou Abaka, ancien directeur de centre social et militant associatif sur Saint-Étienne. Aloua donc nous a fourni son texte qu'on pourra mettre en ligne aussi, et son texte a fait le point un petit peu sur les origines religieuses des travailleurs immigrés dans le bassin stéphanois, de quel secteur ils venaient en Algérie notamment, et cela nous a montré aussi qu'il fallait faire attention parce qu'il y a bien sûr, comme dans toute religion, il y a différents courants, il y a différentes tendances, etc. Et donc derrière l'étiquette musulman, on se rend compte que Aloua Bakan nous l'a bien montré, qu'il y avait quand même des manières particulières de penser et d'être musulman de la part des ouvriers, du fait même qu'ils venaient de certaines régions qui pratiquaient de manière bien spécifique. Et là, ça a été très intéressant, puisqu'on a pu reprendre un petit peu la main et éviter les grands discours unificateurs sur ces ouvriers musulmans. Après, donc on écoutera Aloua Bakan dans quelques instants. Avant de faire une deuxième pause musicale, on va revenir sur les grèves qui ont été étudiées donc, par Vincent Guay. Donc Vincent Guay, c'est un maître de conférence en sociologie à Paris et qui a fait une thèse en histoire sur les grèves justement des ouvriers de l'automobile en région parisienne au début des années 80. Donc à travers les usines d'Aulnay et de Poissy, qui appartiennent à Citroën et à Talbot, hein, donc c'est le groupe Peugeot à l'époque, il nous a montré un petit peu, et là ça a été extrêmement intéressant, comment à partir de ces grèves de 1982-84, il y avait un changement de discours autour du monde ouvrier notamment, et du monde ouvrier des immigrés. Donc en fait, ces grèves, elles vont concerner en majorité des ouvriers marocains, ouvriers spécialisés qui travaillent dans ces grandes usines automobiles de la région parisienne. Donc la majorité sont de confession musulmane. Il va nous expliquer en fait que, et je le cite, « l'émergence d'un problème musulman », qu'il met entre guillemets, il a raison, « lors des grèves du début des années 80, n'est pas tant liée à la revivification de pratiques religieuses à ce moment-là qu'à une visibilité de l'islam relativement inédite lors des conflits ouvriers. Car, et c'est là que c'est intéressant, ces grèves vont en effet être l'occasion dans de nombreux médias nationaux de soulever et surtout de présenter un, entre guillemets, problème musulman qui jusqu'alors ne posait pas du tout de problème dans les entreprises. En gros, il y a comme une sorte de fabrication d'un problème sous couvert, en fait, de décrédibilisation de l'attitude et de la place de la CGT et aussi du Parti communiste français dans ces conflits-là. Il faut savoir que c'est des entreprises qui sont contrôlées par des syndicats autonomes qui ont été mis en place par la direction. Et la CGT et indirectement le Parti communiste sont très très mal vus dans ces grandes entreprises. Et à partir du moment où des conflits vont entrer en action, la direction va tout faire pour briser ces grèves. Et elle va utiliser comme argument le fait que ces travailleurs grévistes sont des ouvriers, certes, mais des ouvriers musulmans. Et donc elle va commencer à prendre un discours qui va dénoncer les collusions qui existerait entre une CGT qui utiliserait les mots d'ordre religieux pour rassembler des personnes, mais en même temps dans un but de décrédibiliser donc ce mouvement de grève. Et ce qui est très très intéressant en fait, c'est qu'à travers son exemple, on se rend bien compte que au départ, il n'y a aucune revendication de la part de ces ouvriers musulmans, de ces ouvriers qui sont construits comme ouvriers musulmans par la suite, il n'y a aucune revendication à proprement parler religieuse. Il y a par exemple... C'est des revendications classiques sur les salaires, les conditions de travail, etc. Il y a de temps en temps une revendication qui est à relier au rythme du travail. Quand on demande 30 minutes de pause pour pouvoir, par exemple, faire une prière, c'est juste parce que les conditions de travail font qu'on ne peut pas le faire normalement. Donc c'est une revendication qui est aussi axée parce qu'il y a telle ou telle condition de travail. Et donc la CGT va relier ses revendications, elle, à la question de la dignité humaine. Mais, comme le signale Vincent Gay, et c'est là que je le cite encore, la visibilité des pratiques religieuses et la façon dont le syndicalisme s'y adapte donnent l'occasion aux adversaires de ce dernier de nourrir un discours antisyndical et anticommuniste, puisant dans les représentations d'un islam ouvrier menaçant qui finit par forger des lectures inédites des conflits. En effet, à partir de cette grève de 1980-84, l'islam va être utilisé par la direction et ses alliés, voire même par le pouvoir central, comme moyen de décrédibiliser le mouvement. Et par là, la CGT et le PCF, soupçonnés qui, en plus donc de manipuler le mouvement religieux. Mais on passe ainsi très vite à une équation où ce n'est plus une grève d'ouvriers, mais ce sont des grèves d'immigrés. Et par là, il y a une extension où on arrive quasiment à une menace intégriste qui aurait comme foyer les usines de l'automobile notamment. Donc en gros, la boucle est bouclée. Le mouvement ne peut pas être crédible parce qu'il est fait par des ouvriers qui ne sont pas français, qui sont musulmans, qui seraient en plus manipulés et qui seraient en plus intégristes. Donc là, il y a un discours qui fait que le mouvement qui est au départ un mouvement ouvrier va être considéré comme un mouvement immigré. Et là, on a la vraie construction d'une problématique qui n'existait pas jusqu'alors. Donc il y a une sorte d'islamisation des conflits à l'œuvre durant ces années 80 et qui va déborder largement le cadre de ceci pour gagner les plus hauts sommets de l'État. Par exemple, Jean Roux, hein, le ministre du Travail à l'époque, reprend à son compte un certain nombre d'analyses allant dans le sens de la direction de l'entreprise Peugeot qui dénonce donc une manipulation de la part d'intégristes, de la part de la CGT, mais donc qui ne met plus en avant cette question classique des revendications salariales de ces travailleurs. Heureusement, certains vont réagir quand même à l'époque pour dénoncer cette calomnie qui est mise en avant. Hein. Mais on voit bien que dans ces années 80, il y a une sorte de nouveauté qui apparaît, c'est-à-dire qu'on ne va plus parler de conflits d'ouvriers. On va mettre en avant une sorte de problème musulman dans les entreprises. Après, Abdelkader Belbari a fait un petit point. Donc Jean-Paul, je te laisse en parler.
Oui, Abdelkader Belbari est intervenu en contrepoint de Vincent Gay. Alors, il partage les analyses de Vincent Gay sur le fond. Mais pour lui, ce qu'il dit, c'est que ces grèves de l'automobile dans les années 1980 sont aussi le premier signe de l'émergence d'un islam politique en France. Une émergence recherchée par des groupes salafistes, et encouragé, vient de le dire Alban, par des membres du gouvernement, mécontents de ces grèves qui, au lieu de s'adresser à des travailleurs comme des travailleurs immigrés en majorité, puisqu'ils étaient majoritaires dans ces usines, se sont adressés à eux, en tant que musulmans, pour les déconsidérer et déconsidérer le mouvement. Et donc, on va entendre une musique d'Idir.
De retour après cette petite pause musicale, donc Didier, où on a pu écouter un chant traditionnel. Donc pour terminer notre présentation de la journée d'études sur les cinquièmes rencontres d'histoire ouvrière du Grémoz de janvier 2018, je vais reprendre un petit peu la conclusion qui a été proposée par Michel Zancarini Fournel à l'époque. Donc elle a relevé, avec raison, que nos contributions, les différentes contributions qu'on avait écoutées durant cette journée d'études, avaient déjà mis en avant quatre temporalités assez particulières, quatre temps. Donc les années 50, avec par exemple la mission ouvrière et l'action de la JOC. Les années 62-81, donc plus largement en gros les années 68, autour de la question du syndicalisme, CGT-CFDT, et donc plus largement de l'Église à gauche du Christ, toute cette question de catholique de gauche, etc. Les années 80, avec cette émergence de la question de l'islam dans les entreprises et du monde ouvrier. Et elle a finalement posé la question, 21e siècle, quel monde ouvrier, quelle religion ? Donc là, c'est des pistes ouvertes, bien sûr, à la réflexion. Hein. Mais plus largement, ce qui a été abordé durant cette journée, ça a été, et je l'ai rappelé aussi précédemment, la question des trajectoires individuelles et la question de l'engagement. Donc on a très bien vu qu'il y avait eu des trajectoires individuelles, qu'on ne peut pas les résumer à des engagements définitifs. Il y a des évolutions dans les parcours individuels et ces trajectoires sont significatives un petit peu de ces différentes années. Donc les personnes qui ont traversé les quatre périodes qu'on a plus ou moins étudiées eh ben, elles s'inscrivent un petit peu à l'intérieur de ces quatre grandes tendances. Et on voit des personnes qui, sur la fin de la période, eh ben, vont peut-être progressivement quitter le monde ou l'action catholique, etc. Donc, ces questions des trajectoires individuelles et de l'engagement ont été un peu au cœur de notre travail. On a aussi posé la question, qu'est-ce qu'un militant chrétien ? Donc, on a insisté sur la question de la JOC et de la CO, hein, comme lieu de formation et du militantisme. Mais il faudrait maintenant... développer, analyser plus finement, recomprendre des témoignages, les compléter, etc., pour voir et avoir une vision un peu plus exhaustive de ces militants chrétiens. Et pour l'anecdote, je me rappelle, en ayant parlé avec le père Giron il y a quelque temps, c'est vrai que c'était militant chrétien ou militant catholique et militant de l'Église ou militant pour l'Église. Tout un tas de petites variations dans les terminologies posent question. On est des ouvriers chrétiens, on est des ouvriers pour le Christ. Il y avait toute une argumentation derrière qui pesait dans les organisations et qui était débattue. Il y a aussi la question des valeurs et des références. Donc, tout au long de cette... journée d'études, on a régulièrement parlé de l'évangile, du rôle de l'évangile dans les parcours de ces militants, comment ils s'engageaient à l'intérieur de tout ça, l'importance du message de Jésus-Christ. Et donc, on a pu aussi mettre en parallèle les valeurs chrétiennes, les valeurs de solidarité, avec les valeurs syndicales, qui sont des valeurs de combativité notamment. Et donc, il y a eu une fusion un petit peu de ces valeurs qui a pu se passer à certains moments, en fonction des militants, en fonction des périodes. Par exemple, en 63, qui rappelle les formes de solidarité de la fin du 19e siècle, avec par exemple la prise en charge des enfants, des soupes communistes, etc. Donc là, il y a une vraie imbrication entre des pratiques communistes et des pratiques chrétiennes, on va dire. Donc on est un petit peu dans l'entre-deux, et ça a été très intéressant de pouvoir axer là-dessus. Il y a eu la question des femmes aussi, hein. On a commencé la journée avec une... question de la mission féminine, qui est très peu abordée malheureusement, mais on a pu avoir un éclaircissement à ce niveau-là. Et Michel Zancarini-Fournel a quand même rappelé, avec raison, que le mouvement ouvrier a toujours été très viril, à cause notamment de l'influence proudhonienne. Hein. Une des premières motions de l'Association internationale des travailleurs, hein, donc, dans laquelle Proudhon était partie prenante, a été de voter, par exemple, contre le travail des femmes à l'époque. Hein. Donc c'est vrai que le mouvement ouvrier a toujours eu une position un peu ambiguë, ambivalente, hein, par rapport au travail des femmes et aux femmes en général. Donc il y a un paradoxe pour le christianisme, comme le dit Michel Zancarini-Fournel, puisque les femmes en ont été un des piliers au XIXe siècle. À propos du XXIe siècle, enfin, des formes de solidarité dans les quartiers, on l'a bien vu. La journée a donc permis des déplacements, et là je reprends ce que Michel Zancarini-Fournel a dit, par rapport à l'historiographie présentée ce matin. On s'est un peu éloigné de la question du comment l'Église a voulu organiser les mouvements ouvriers, et contrairement aux apparences et à certains discours, il existe aussi une sécularisation pour les gens de croyances musulmanes. Vincent Gay a aussi très très bien rappelé que l'islamophobie est présente depuis longtemps en France, notamment à travers tout un tas d'articles, de sketchs, etc., qui ont été mis en avant dans les années 80, aussi bien dans des journaux comme Le Figaro, mais aussi par des artistes comiques qui singeaient un petit peu, caricaturaient les relations entre la CGT et le monde musulman à l'époque. Et c'est vrai que Vincent Gay nous a passé des extraits qui sont quand même assez significatifs sur l'islamophobie qui se met en place à partir de ces années 80, en prenant appui sur ces grèves d'ouvriers, hein, qui ne sont pas considérées comme des grèves d'ouvriers, mais qui sont considérées comme des grèves d'immigrés. Donc, pour faire une petite conclusion et un bilan de la journée, je vais laisser la parole à Jean-Paul.
Alors, d'abord, une confirmation de ce que nous pensions. Même si des syndicats ou des organisations comme la JOC ont connu à certaines périodes un grand développement, ces organisations sont restées dans un rapport de force minoritaire par rapport aux blocs JC, PCF, CGT. Alors, et en même temps qu'on a l'impression qu'il y a eu un double écroulement des deux côtés. Après les années 80, à partir de la fin des années 80. Plus encore, le travail de ces organisations dans le monde ouvrier a amené certaines organisations et certains militants de ces organisations à adopter des positions contraires à celles prônées par les églises. Il en est résulté, pour certains, on l'a déjà dit tout à l'heure, un détachement de l'église institution. Il en est resté pour d'autres une perte de la foi, ou au moins de la foi de leur enfance. En tout état de cause, à la fin du XXe siècle, le monde ouvrier demeurait un monde déchristianisé et certains auteurs se sont demandé où étaient passés les chrétiens. Nous allons mettre en ligne toutes les interventions de la journée et les diffuser auprès des personnes qui étaient inscrites et qui se sont inscrites dans la journée pour recevoir des informations. Ces informations sont aussi destinées à vous, amis auditeurs. Si certains d'entre vous sont intéressés, qu'ils le fassent savoir à Lionel, qui nous transmettra vos noms et vos adresses. Merci Lionel.
Je vous rappelle aussi l'adresse du Grémos, l'adresse internet. Donc pour l'instant, c'est www.gremos.l'autrenet.com, si je ne me trompe pas. Et donc, on va mettre en ligne toutes ces... L'autre.net, exactement. Mais bon, vous tapez Grémos sur un moteur de recherche, Grémos, et vous tomberez sur notre site. Et donc, dans quelques mois, on va mettre en ligne toutes les contributions. On va retravailler là-dessus avec Jean-Paul. Et donc, vous pourrez avoir accès à toutes ces contributions. Voilà. Nous allons maintenant terminer notre émission par un petit point sur l'actualité de ce mois de mai, qui va être assez riche. Parle-nous-en, Jean-Paul.
Alors, l'actualité du mois de mai, ben, vous savez que ça va être le 50e anniversaire du mouvement de mai-juin 1968. Alors, au remue-ménage, vous trouverez, vous entendrez, entre le 1er et le 31 mai, un journal de 13h et de 20h qui relatera des événements et des témoignages sur l'époque. Vous trouverez aussi au remue-ménage deux conférences-échanges. Une conférence de Michel Zancarini-Fournel, dont nous avons beaucoup parlé, professeur à l'université Claude-Bernard Lyon, spécialiste en histoire contemporaine, auteur du livre 68, une histoire collective 1962-1981 à la découverte. Et Michel Zancarini-Fournel interviendra le mercredi 9 mai au remue-ménage. Pierre Héritier, ancien dirigeant de la CFDT de la Loire, ancien secrétaire national de la CFDT, acteur de mai 1968, interviendra au remue-ménage le jeudi 24 mai. Pour les heures, il faudra vous adresser au remue-ménage parce que pour le moment, nous ne les connaissons pas. Jean-Michel Stenner, notre président bien-aimé du Grémos, interviendra, lui, le 29 mai à la Cinémathèque. Et puis, notre jeune ami Alban Graziota interviendra, lui aussi, à la Cinémathèque le 31 mai 2018 dans le cadre de la conférence organisée par l'IHS-CGT Benoît Frachon sur le thème de mai-juin 1968.
Oui, donc pour revenir rapidement sur cette dernière journée, c'est donc un événement qui est organisé par l'IHS-CGT, donc l'Institut d'Histoire Sociale CGT, à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Donc on va être trois intervenants. Jacques Henry va commencer par nous faire un petit peu rappel du cadre global durant les années 60, pour rappeler que voilà, mai-juin 68, il y a quand même eu des choses avant mai-juin 68, donc on va rappeler tout ça. En mai-juin 68, je vais prendre la main et je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'était mai-juin 68 dans le bassin stéphanois, avec une mise en parallèle avec le mouvement national, pour bien montrer encore une fois, j'insiste là-dessus toujours, sur quand même certaines spécificités de ce bassin stéphanois dans le paysage industriel français de l'époque. Parce qu'on est quand même dans un endroit assez particulier, il me semble, quand on fait un petit peu des recherches comparatives sur ce qui se passe en France. Voilà, il y a des choses singulières dans le bassin stéphanois, donc je reviendrai là-dessus et j'élargirai mon propos jusqu'aux années 1974-75, où on voit encore des conséquences de mai-juin 68 dans les formes d'organisation, les mots d'ordre, les personnes qui se mobilisent dans les conflits. Et à partir de 1975, la crise aidant, on passe de grève offensive à des grèves défensives pour la situation de l'emploi, etc., la préservation des entreprises. Et là, on change de configuration, on change d'époque. Il y a une sorte de basculement. Encore une fois, le bassin stéphanois est un petit peu en avance sur les autres à ce niveau-là. On regarde ces structures industrielles qui font qu'il est frappé très tôt par la crise. Et donc, à partir de 1975, la traînée de poudre de mai-juin 68 commence un peu à s'étioler, mis à part quelques conflits. Et donc, on va rentrer dans une nouvelle période où la crise va primer. Et là, je laisserai la parole à un doctorant, Lucas Wendowski, donc qui parlera sur les changements du militantisme, du syndicalisme, etc., à partir de ces années 70-80, donc avec une approche à la fois locale et nationale et un peu plus théorique. Donc une journée qui sera entrecoupée d'extraits de films, de documentaires de l'époque, pour rendre ça un petit peu vivant. Donc une journée d'études qui semble a priori intéressante et qui nous permettra de remémorer un petit peu cette période, qui va donner lieu certainement à un certain nombre de publications, comme il y a 10 ans, où il y avait eu tout un tas de publications pour les 40 ans de mai-juin 68. Là, cette année, les éditeurs sont aussi mis au travail, puisqu'il y a au moins 4 ou 5 livres qui viennent de sortir coup sur coup quasiment sur mai-juin 68. Donc tous les 10 ans, on a le droit à des nouvelles...
Donc, dont un livre de Ludovine Bantini qui a l'air très intéressant.
Voilà. Un livre de Ludovine Bantini, oui, mai 68, ça s'appelle, et il est très intéressant parce que pour une fois, on a un historien qui a fait vraiment un travail d'archives dans plein de centres d'archives différents. Donc on a une vision assez nationale pour une fois, dans laquelle le bassin stéphanois n'est pas oublié. Alors que d'habitude, c'est vrai que quand on lit les bouquins d'histoire sur le monde industriel, les luttes politiques, etc., sur l'époque, c'est vrai que le bassin stéphanois est un des grands absents au niveau territorial. Et là, pour le coup, elle a été voir les archives départementales de la Loire. Donc on a quand même pas mal d'informations sur ce qui se passe dans le bassin stéphanois qu'on peut mettre en regard avec ce qui se passe ailleurs. Donc très intéressant. Et donc ça fait partie de cette bibliographie qui va sortir pour l'événement. Hein. Donc tous les 10 ans, il y a toujours quelques livres qui vont sortir et qui renouvellent en partie notre regard sur mai-juin 68, mais qui surtout nous permettent d'approfondir un petit peu notre regard sur cette période. Donc nous en avons terminé pour aujourd'hui, si je ne me trompe pas.
Si je peux me permettre d'apporter un petit complément. Jean-Paul, tu parlais des horaires qui n'étaient pas encore indiqués pour les conférences. Il y a un site dédié qui vient d'être lancé dans le cadre d'une journée un peu symbolique, le 22 mars. Le 22 mars 68, ça me rappelle la grande manif ici, on a pu voir sur les murs 68, ok, mais sans les hippies. En tout cas, un site dédié pour tous les événements qui vont se dérouler sur Saint-Étienne et dans la région, c'est le site suivant, http://en50ans68.wordpress.com 50ans68.wordpress.com.
D'accord, voilà.
Et là, vous aurez toutes les infos sur ce qui va se dérouler à Saint-Étienne, dans le cadre de ses 50 ans du mois de mai.
Merci de l'information.
Je vous en prie, merci à vous.
Donc c'était l'émission mensuelle du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, avec Jean-Paul Bentier et Alban Grasiotin. Nous espérons que cette émission vous a plu et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir, amis des ondes.